Ici Bertrand Boulanger, chers auditrices et chers auditeurs, je vais tenter en quelques mots de vous expliquer le pourquoi de notre présence en cette oreille qui est la vôtre. Nous avons répondu à un appel à projet du collectif Faune qui est dans la région actuellement avec un sujet fort intéressant, les jardins publics et les jardins secrets. Nous y avons répondu par deux simples mots, terrien vague et potager mental. Et dans le cadre de ces ateliers, en l'occurrence terrien vague, nous avons envisagé un herbier imaginaire. Et pour ce faire, je me suis fait le grand plaisir d'inventer quelques petites histoires qui font du lien entre des choses qui existent, des choses qui existeraient et des choses qui vont exister par le simple fait qu'on y croit un peu. Donc voici l'histoire du Palais Tuvy. Je vous laisse la découvrir à présent. Le palais Tuvy dans son mouvement de va-et-vient. En cette période préféérique qui n'a pas ma préférence, je succombe à l'envie de vous offrir un petit cadeau, mon premier et peut-être dernier petit conte de Noël. Il y a très longtemps de cela, les sapins de salon étaient décorés avec des pommes, afin de refouler par le dessous du paillasson les mauvais esprits de la maison. Bon. Puis vint une période où les boules furent confectionnées en verre soufflé que l'on trempait dans le mercure. Mais pour cela, il fallait ramasser le mercure à la fourche, et c'était très long et on s'en fichait partout. Vous connaissez la suite. Par contre, ce que vous ignorez sans doute, c'est que bien avant les pommes, et même bien avant les sapins, il existait sur Terre un arbre dont les fruits ressemblaient à s'y méprendre à nos boules d'aujourd'hui. Celles qui nous font des gros nez rouges ou bleus de chameau rigolo, si l'on s'en approche trop. À l'inverse et à son rythme, alors que nous, les terriens vagues d'avant les clôtures, nous arrivions à pas feutrés, cet arbuste étonnant des forêts anonymes s'est éloigné tendrement de nous. Il a mis les bouts et s'appelle. Oui, je n'en parle pas au passé, il n'est plus ici certes, mais il en existe encore un quelque part, c'est évident. Je le vois encore mieux lorsque je ferme les yeux. On ne peut pas le rater, il est seul au monde. Il s'appelle le Palais Tuvy. Ainsi, parmi la foule de ses extravagantes particularités, c'est encore sa manière de se déplacer dans l'espace infini des mangroves ancestrales qu'il est la plus époustouflante. Époustouflerissante, aurais-je envie encore et encore de dire. En effet, lorsque la saison lui tintinabule dans le creux de la feuille, qu'arrive le bon moment, il s'orne de quelques fruits tout ronds qui finiront par s'ouvrir délicatement par le dessus, telles des énormes figues joufflues ou des étoiles de mer en confiance et en cinq parties égales. De plus, au bout de chacune de ces branches apparaissent çà et là de magnifiques petits bourgeons si duveteux qu'on les confondrait facilement avec de magnifiques pinceaux. Cette saison de radieuse naissance se nomme tout simplement le printemps. Mais le printemps avec deux T. Pourquoi deux T? C'est limpide et en voilà la raison avec un R. print, signifiant imprimé, et temps étant le diminutif pluriel de température. Rature n'étant ici qu'une subtile évocation envers le brouillon naturel de la vie, des essais dans la marge, que Paul Klee mentionnait à sa manière dans son fameux adage « Ce que je fais m'apprend ce que je cherche ». Donc, autrement dit, au moment où la température indique qu'il est bientôt l'heure d'imprimer. Oui, allez vous dire oui, mais imprimer quoi? Où? Et comment? C'est là que le marsupial des montagnes animalayennes, qu'on pourrait aisément confondre avec un gros hamster oursonné ou un petit ourson hamstérisé, intervient. Surnommé Wombat, pour des raisons encore obscures, puisque sa familiarité avec les femelles chauves-souris, même retournées, n'a pas encore été prouvée. Wombat, Batwom, en diminutif de Batwoman, semblant un tantinet fantaisiste. Bien que l'ouverture de la poche ventrale de ce petit herbivore fouisseur soit elle aussi dirigée vers le bas. C'est sûr, si la poche était vers le haut, elle se remplirait vite de terre. Bon. Méfions-nous des amalgames hâtifs et retournons à notre enquête. Que fait donc de si intéressant le fruit grand ouvert du palétuvie? Eh bien, il laisse apparaître à l'intérieur de ses 5 pétales solides et creux, 5 petits récipients ronds contenant chacun un grand nombre de petites graines vivement colorées. 5 couleurs y sont donc représentées, le vert, le bleu, le jaune, le rose et le orange. Voilà d'où surgit son nom, de palette. C'est comme une planche à pain sans pain et espérons sans croûte. Que aurait pondu des œufs avec lesquels on pourrait faire une omelette arc-en-ciel? Cet ustensile étant aussi fort apprécié des caristes aux dents blanches et, juste pour la rime, des peintres du dimanche. Le wombat mâle, à la saison des amours, avec un petit A et un grand S, grimpera dans l'arbre à l'aide de ses griffes si pointues qu'on pourrait croire qu'il les a empruntées à un tigre caché dans un rosier. Il ira instinctivement coller sur le bout de sa langue quelques graines de couleur jaune. Ensuite, il les déposera très minutieusement au sol, en forme de demi-lune. Puis attendra au pied de l'arbre, en position du lotus, si sa souplesse lui permet, ou alors endormi en boule, qu'une wombat femelle arrive. La vision de cette demi-lune lui indiquant qu'elle est libre de full mooner, autrement dit de grimper à l'arbre, de poser la pointe de sa langue dans le rond jaune, comme on goûte l'eau d'un lac matinal avec le bout du doigt de pied, de redescendre, la bouche close, griffe au tronc marche arrière, et de déposer, à son tour, les fameuses graines juste à côté, en demi-cercle. Complétant ainsi la partie manquante de cet intrigant puzzle en lune pleine, eh bien c'est ça, full mooné, c'est doux et plein d'espoir. L'inverse, c'est fulminer, se perdre en colère de foudre, exploser, s'éparpiller. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. C'est même l'exact contraire. Puisque désormais, un chantier pictural, aussi participatif que décisif, pourra alors commencer entre eux. Ils se mettront donc, ensemble, à déposer des graines au sol, de manière harmonieuse et colorée. Ils peindront de concert, en confiance réciproque, un motif représentant l'amour de la vie. Ici, pas de thème imposé, mandala vaudou, cubisme, pointillisme, van goghisme, surdadaïsme, tout est possible. Ce qui comptera le plus résidera dans leur manière d'observer et de composer avec la sensibilité de l'autre, sans tirer la couverture à soi. Une œuvre éphémère, entendez, éphémère. Ou pas. La roue du paon et le brame du cerf en prennent un sacré coup dans la carlingue. En cas de mésentente, avec 4 E minuscules, il y aura simplement abandon du projet commun et les participants sur la mauvaise pente se verront juste contraints de remettre les graines à leur place. Merci d'avance. En cas d'entente, et une fois le tableau considéré comme accompli et satisfaisant pour chacun, chacune, les deux complices l'encadreront alors de leur célèbre petite crotte carrée. Si fameusement carrée que même l'astéroïde nommé vulgairement 6827, aux formes certes vaguement quadrilatérales, porte à présent le nom percussif et soufflon de Wombat. Mais chut, libérons l'espace à présent, car nos deux peintres d'amour, avec un grand A singulier, vont se rendre au cœur de l'ouvrage pour se laisser glisser sur les pentes lumineuses et croustillantes du droit de reproduction. Cette œuvre réjouissante en humus onirique se mettra à émettre, millimètre à millimètre, une attraction incontournable vers la branche bourgeonnée située un peu plus haut. Elle, dont l'extrémité se finit en délicat pinceau, souvenez-vous-en, elle achèvera alors sa course en plongeant à l'endroit exact du tableau de la lune jaune. Jaune paille, paille de nid d'amour, jaune que l'or n'a pas corrompu. Prenons alors de nouvelles racines. Et c'est ainsi que le palétuvi, dans son mouvement de voix et vient, a avancé délicatement, picturalement, jusqu'à disparaître de notre champ de vision. C'est aussi ainsi que s'achève cette histoire, ce conte.